Les voyageurs surpris. Par une soirée obscure, un carrosse traîné par des mules gravissait lentement un des passages des Apennins. C'était un des défilés les plus sauvages. À peine rencontrait-on de loin en loin quelques hameaux ou les tours blanches d'un couvent à demi couverte par le feuillage des montagnes. Le carrosse était d'une construction lourde et antique. Ses ornements témoignaient des jours de splendeur, mais le craquement de ses roues et de ses ressorts fatigués révélait une décadence récente. Au-dedans était un vieillard grand et mince, couvert d'une espèce de costume militaire de voyage, avec un bonnet garni de fourrure, quoique les cheveux gris qui en sortaient fissent voir que ses jours de combat étaient passés. Près de lui était une jeune fille de 18 ans, belle, pâle, dans un costume septentrional ou polonais. Un domestique était assis sur le devant. Sa figure triste et sévère était traversée d'une cicatrice. Une schnurrbart, ou paire de moustaches d'un blond ardent, se hérissait sous son nez. Il avait tout à fait l'air vieux soldat. C'était l'équipage d'un gentilhomme polonais, débris d'une de ces puissantes familles qui avaient étalé jusque presque orientale, mais aujourd'hui abattue et ruinée par les désastres de la Pologne. Le comte, comme bien d'autres âmes généreuses, convaincu du crime de patriotisme, était en quelque sorte exilé de son pays. Il avait habité quelque temps les plus brillantes cités de l'Italie pour l'éducation de sa fille, sur laquelle se concentraient maintenant tous ses soins et tout son bonheur. Il l'avait introduite dans la société, où sa beauté, ses qualités lui avaient fait 1000 admirateurs, et, si elle n'eût été la fille d'un gentilhomme polonais ruiné, il est plus que probable qu'il se serait disputé sa main. Mais tout à coup, la santé de la jeune personne devint faible et chancelante. Sa gaieté disparut avec les roses de son teint. Elle tomba dans l'abattement et la langueur. Le comte vit ce dépérissement avec l'inquiétude d'un père. « Il faut essayer un changement d'air et de séjour, » dit-il. Et bientôt, l'antique carrosse de famille roula dans les Apennins. Toute leur suite se composait du vétéran Caspas, né dans la famille et vieilli à son service. Il avait suivi son maître dans toutes ses aventures, il avait combattu à ses côtés, l'avait couvert de son corps quand il était renversé dans la mêlée et avait reçu, en le défendant, ce coup de sabre qui rendait sa physionomie si maussade. Il était maintenant son valet, son intendant, son sommelier, son factotum. Le seul être qui le disputa à son maître dans ses affections était sa jeune maîtresse. Ses yeux l'avaient vu croître, ses mains avaient guidé son enfance et il la regardait alors avec la tendresse d'un père. Il osait même, avec la liberté d'un père, donner hardiment son avis sur tout ce qu'il lui croyait utile et sentait la vanité d'un père en la voyant attirer les regards et l'admiration. La nuit s'approchait. Ils avaient parcouru quelque temps les gorges étroites des montagnes et suivi le cours d'un torrent. La scène était solitaire et sauvage. Des rochers s'avançaient souvent sur la route, et des troupeaux de chèvres, perchés au sommet, abaissaient leurs regards sur les voyageurs. Près de 2 lieues leur restaient à parcourir avant d'atteindre le premier village. Cependant, le muletier Pietro, vieil ivrogne qui, à la dernière halte, s'était rafraîchi d'une quantité de vin plus qu'ordinaire, fredonnait, parlait à ses mules en dépit des avertissements du comte et des malédictions de Caspar. Les nuages, amoncelés en masses pesantes sur le haut des montagnes, commençait à en cacher le sommet. L'air de ces montagnes était humide et froid. L'inquiétude du comte pour la santé de sa fille l'emporta sur sa patience ordinaire. Il se pencha hors de la voiture et appela brusquement Pietro. « Allez donc, » dit-il, « il sera minuit avant que nous n'arrivions à l'auberge. »« La voici, signore, » dit le muletier. « Où ?» demanda le comte. « Là, » dit Pietro, montrant un bâtiment isolé à environ un quart de lieue. « En ce lieu ? Elle a plutôt l'air d'une ruine que d'une auberge. Ne devions-nous pas passer la nuit dans un bon village ?» Ici, Pietro poussa une kyrielle d'exclamations et interjections lamentables, comme on a toujours à la bouche un muletier en défaut. Quelle route et quelle montagne! Et puis, ces pauvres bêtes étaient fatiguées, épuisées. Elles seraient estropiées. Elles ne pourraient jamais atteindre le village. D'ailleurs, que fallait-il de mieux à son excellence? Un vrai château? Un palais? Et quels gens? Et quelle cuisine? Et quel lit? Son excellence pourrait y vivre et y dormir comme un prince. Le comte se laissa aisément persuader car il voulait préserver sa fille de l'air de la nuit. Ainsi, en peu d'instants, le vieux carrosse entra avec fracas par la grande porte de l'auberge. L'édifice répondait en partie à la description du muletier. Il était assez large pour être un château ou un palais. L'architecture en était solide mais simple et presque sauvage, avec une grande quantité de vastes appartements. Il avait en effet été jadis le rendez-vous de chasse d'un prince italien. Le corps de bâtiment, les constructions qui en dépendaient auraient suffi pour loger une petite armée. Cette triste demeure semblait assez peu habitée. Les figures qui se présentèrent à l'arrivée des voyageurs étaient malpropres et peu prévenantes. Tous connaissaient le vieux Pietro et l'accueillirent quand il entra, chantant, parlant et presque criant à la grande porte. L'hôtesse guida elle-même le comte et sa fille pour leur montrer les appartements. On les conduisit par un long corridor sombre et une suite de chambres qui donnaient l'une dans l'autre avec de majestueux plafonds traversés de longues poutres. Tous, cependant, avaient un air de saleté et de misère. Les murs étaient humides et dépouillés. Çà et là étaient suspendus quelques grands tableaux assez larges pour orner une chapelle, mais noircis et presque effacés. Ils choisirent deux chambres l'une dans l'autre, celle du dedans pour la jeune fille. Les bois de lit étaient massifs et mal taillés et, en examinant les lits eux-mêmes si vantés par le vieux Pietro, ils les trouvèrent remplis de longues tresses de chanvre. Le comte leva les épaules, mais il n'avait pas à choisir. Le froid des appartements les glaçait. Ils se hâtèrent de retourner à une chambre commune, ou sorte de salle où du feu était allumé dans un vaste trou honoré du nom de cheminée. Une grande quantité de bois vert venait d'y être jetée et répandait d'énormes masses de fumée. Cette chambre répondait au reste de la maison. Elle était pavée et remplie de boue. Au centre était une grande table de chêne que son volume et sa pesanteur rendaient inébranlable. La seule chose qui s'accorda mal avec cet air général de pauvreté était le costume de l'hôtesse. Elle était d'elle-même assez malpropre, mais ses vêtements, quoique sales et négligés, n'était pas sans richesse. Elle portait au doigt quelques bagues de grand prix, des diamants aux oreilles et, autour du col, un collier de grosses perles qui soutenait un riche crucifix. Elle conservait des restes de beauté. Cependant, l'expression de son visage avait quelque chose qui inspira à la jeune Polonaise une répugnance invincible. Elle était officieuse et empressée. Et le comte et sa fille virent avec plaisir qu'elle les confiait aux soins d'une servante à l'air sombre et menaçant pour aller surveiller elle-même le souper. Caspase ne pouvait pardonner au muletier d'avoir, par négligence ou à dessein, conduit en un tel son maître et sa maîtresse, et il jura par ses moustaches qu'il se vengerait sur le vieux coquin dès qu'il serait hors des montagnes. Il ne cessa de quereller la servante, ce qui ne servit qu'à augmenter encore l'expression sinistre avec laquelle celle-ci regardait les voyageurs sous ses épais sourcils noirs. Quant au comte, c'était un voyageur docile et résigné. Peut-être son âme, adoucie par des infortunes réelles, avait-elle appris à supporter toutes ces petites contrariétés qui rendent misérables les gens heureux? Il approcha du feu, pour sa fille, un large fauteuil brisé, en prit un autre pour lui-même, et, s'armant d'une énorme paire de pincettes, tâcha d'arranger le bois de manière à produire de la flamme. Cependant, ses efforts ne produisirent que de plus épaisses bouffées de fumée qui lassèrent enfin la patience du brave homme. Il se recula, jeta un coup d'œil sur sa pauvre fille, puis sur le triste et sombre appartement, et, secouant ses épaules, s'efforça encore de ranimer le feu. Cependant, de toutes les misères d'une mauvaise auberge, il n'en est pas de plus grande que les domestiques maussades. Le digne comte supporta quelque temps la fumée en silence plutôt que de s'adresser à la servante bourrue. Enfin, il fut forcé de lui demander du bois plus sec. Cette femme sortit en murmurant. En rentrant brusquement dans la chambre, les bras chargés de fagots, son pied glissa. Elle tomba et, sa tête ayant heurté l'angle d'une chaise, elle fut blessée à la tempe. Le coup l'étourdit un instant et le sang jaillit en abondance. En revenant à elle, elle trouva la fille du comte occupée à soigner sa blessure et la couvrant de son mouchoir. C'était un service que toute femme se fut empressée de rendre, mais peut-être y avait-il, dans les traits de l'être charmant qui s'inclinait vers elle, ou dans le son de sa voix, quelque chose qui toucha le cœur de cette femme peu habituée à recevoir le secours d'une telle main. Il est du moins certain qu'elle fut vivement affectée. Elle saisit la main délicate de la jeune Polonaise et, la serrant avec ferveur sur ses lèvres, « Que San Francesco veille sur vous, signora !» s'écria-t-elle. De nouveaux venus troublèrent le silence de l'auberge. C'était une princesse espagnole avec une suite nombreuse. La cour était en tumulte, toute la maison en désordre. La maîtresse de l'auberge courut au-devant d'hôtes si distingués et le pauvre comte, sa fille et leur souper furent quelque temps oubliés. Le vétéran Caspase murmura assez de malédictions polonaises pour déchirer une oreille italienne, mais sans réussir à convaincre l'hôtesse de la supériorité de son vieux maître et de sa jeune maîtresse sur toute la noblesse d'Espagne. Le bruit de cette arrivée avait attiré la jeune fille à la fenêtre au moment où les nouveaux venus descendaient. Un jeune cavalier sauta de la voiture et tendit la main à la princesse. C'était une petite vieille ridée, avec une figure de parchemin et un œil noir encore plein de feu. Son costume était riche et brillant. Elle marchait, appuyée sur une canne aussi haute qu'elle.
Le jeune homme était grand et bien fait.
La jeune fille recula en le voyant, quoique la fenêtre massive la dérobât à ses regards. Elle poussa un profond soupir en fermant la croisée. Je ne saurais dire le sens de ce soupir. Peut-être naissait-il du contraste entre le brillant équipage de la princesse et la vieille voiture en ruine de son père, rester près de là. Quoi qu'il en soit, la jeune Polonaise ferma la croisée en soupirant. Elle retourna à son siège. Un léger frisson agita son corps délicat. Elle appuya son coude sur le bras du fauteuil, reposa son visage pâle sur la paume de sa main et regarda tristement le feu. Le comte la trouva plus pâle que de coutume. « Souffres-tu, mon enfant ? » dit-il. « Non, bon père, » répliqua-t-elle, lui donnant la main et le regardant avec un sourire. Mais à ce mot, une larme perfide roula tout d'un coup dans ses yeux et elle détourna la tête. « L'air de la fenêtre t'a refroidi, » dit le comte tendrement, « mais une bonne nuit te remettra. » Enfin, on couvrit la table. On allait servir le souper quand l'hôtesse vint, avec sa politesse ordinaire, s'excuser d'introduire les nouveaux venus. L'air de la nuit était froid et aucune autre chambre de l'auberge n'avait de feu. À peine avait-elle cessé de parler que la princesse entra, appuyée sur le bras de son élégant billet. Le comte la reconnut aussitôt pour une dame qu'il avait souvent vue en société, à Rome et à Naples, et qu'il avait toujours invitée à ses assemblées. Le jeune homme était son neveu et son héritier. Son esprit, ses grandes espérances, l'avaient fait admirer dans les cercles les plus brillants, et il s'était déjà trouvé avec le comte et sa fille dans une visite à la villa d'un noble napolitain. La renommée publiait sa prochaine union avec une riche héritière espagnole. La rencontre fut agréable au comte et à la princesse. Le premier était un gentilhomme de la vieille école, courtois à l'excès. La princesse avait, dans son temps, été une belle, toute sa vie une femme à la mode, et aimée à être honorée. Le jeune homme s'approcha de la jeune polonaise et commença une espèce de compliment. Mais ses manières étaient embarrassées et son compliment finit par un murmure confus. La jeune fille le salua sans lever les yeux, remua les lèvres sans articuler une parole et retomba sur son siège où elle resta à regarder le feu, la figure agitée de mille expressions différentes. Ce singulier abord des deux jeunes gens ne fut remarqué ni du père ni de la tante, occupés au même instant à de leurs courtoises salutations. Ils convinrent de souper ensemble et, comme la princesse voyageait avec son cuisinier, un souper fort passable fuma bientôt sur la table. On y avait joint des vins choisis, des liqueurs, des confitures délicates tirées de l'une des voitures, car c'était une vieille épicurienne d'un goût raffiné pour les bonnes choses de ce monde. En un mot, cette princesse était une petite vieille pleine de vivacité qui mêlait les plaisirs à la dévotion. Elle allait alors à Lorette pour expier une longue vie de galanterie et de peccadilles par une riche offrande sur le Saint-Autel. Elle portait le luxe jusque dans la pénitence et formait un contraste avec les pèlerins des anciens jours qui voyageaient avec le bâton et le bourdon. Mais ce serait folie d'attendre les gens à la mode d'une telle abnégation. Et comment douter de l'efficacité toute puissante ? Des riches crucifix, des vases d'or, des ornements de pierreries qu'elle portait au trésor de la Sainte Vierge. La princesse et le comte parlèrent beaucoup pendant le souper des scènes de société dont ils avaient été témoins, sans remarquer que toute la conversation roulait entre eux. Les jeunes gens étaient muets et gênés, la jeune fille ne mangeait pas, malgré la politesse de la princesse qui la pressait sans cesse de goûter quelques-unes de ses friandises. Le comte secoua la tête. « Elle n'est pas bien ce soir. J'ai cru qu'elle allait s'évanouir au moment où elle regardait à la fenêtre l'arrivée de votre carrosse. » Une vive rougeur couvrit les traits de la jeune fille, mais elle pencha la tête et les tresses de ses cheveux cachèrent son visage. Le souper fini, ils tirèrent leur fauteuil près de la vaste cheminée. La flamme et la fumée avaient cessé, et un monceau de charbons embrasés répandait une douce chaleur. Une guitare, tirée de la voiture du comte, était suspendue au mur. La princesse l'aperçut. « Ne pourrions-nous avoir un peu de musique avant de nous retirer ? » demanda-t-elle. Le comte, fier des talents de sa fille, se joignit à la comtesse. Le jeune homme fit un effort de politesse et, prenant la guitare, la présenta, quoique d'un air embarrassé, à la belle musicienne. Elle eût voulu refuser, mais sa confusion l'en empêcha. Elle était si émue, si tremblante, qu'elle n'osa faire entendre sa voix pour murmurer une excuse. Elle reçut l'instrument d'une main défaillante et, après peu d'instants de prélude, s'accompagna sur quelques airs polonais. Les yeux de son père s'animaient en la regardant. Le vieux Caspas lui-même restait dans la chambre. En partie par amour pour la musique de son pays, mais plus encore par la fierté que lui inspirait la musicienne. En effet, la mélodie de sa voix, la délicatesse de ses accords eussent charmé les oreilles plus délicates. La princesse branlait la tête, suivait la musique en frappant de sa main, quoique complètement hors de mesure, tandis que le neveu était profondément plongé dans la contemplation d'une peinture noire placée sur le mur opposé. « Allons, dit le comte, touchant tendrement la joue de sa fille. Encore une faveur, faites entendre à la princesse ce petit air espagnol que vous aimiez tant. » « Vous ne sauriez croire, ajouta-t-il, quel progrès elle a fait dans votre langue, quoique depuis peu elle soit devenue si triste et si indifférente à tout. » De vives couleurs animèrent les joues pâles de la jeune fille. Elle hésita, murmura quelques mots. Enfin, elle fit un dernier effort, frappa fortement sa guitare et commença. C'était une romance espagnole d'amour et de mélancolie. Elle prononça la première stance avec une touchante expression. Les doux accents de sa voix défaillante allaient au cœur. Mais sa langue s'arrêta. Ses lèvres tremblèrent. Le chant expira dans sa bouche. Elle fondit en larmes. Le comte la pressa tendrement dans ses bras. « Tu n'es pas bien, mon enfant, dit-il, et je t'impose une tâche cruelle. Va à ta chambre. Que Dieu te bénisse. » Elle salua la compagnie sans lever les yeux et sortit. La porte fermée, le comte secoua la tête. « Cette jeune fille, dit-il, a quelque chose que je ne puis deviner. Elle a perdu depuis peu sa santé et sa gaieté. Ce fut toujours une tendre fleur, et j'ai eu bien de la peine à l'élever. Pardonnez la faiblesse d'un père, continua-t-il, mais j'ai eu bien des chagrins dans ma famille. Cette pauvre fille est tout ce qui me reste, et je l'ai vue si vive. Ce reste de l'amour, dit la petite princesse secouant la tête d'un air de malice. Impossible, répliqua naïvement le digne comte. Elle ne m'en a jamais dit un mot. Combien le brave homme se doutait peu des soucis, des chagrins, des peines d'amour qui agitent un cœur virginal et qu'une jeune fille timide ose à peine s'avouer à elle-même. Le neveu de la princesse se leva brusquement et se promena dans la salle. Quand la jeune fille se trouva seule dans sa chambre, ses sentiments, longtemps retenus, éclatèrent avec vivacité. Elle ouvrit la fenêtre pour que l'air pût rafraîchir ses joues brûlantes. Peut-être un peu d'orgueil ou de dépit se mêlait-il à sa tendresse, quoique son doux caractère ne semblât pas en état de nourrir de tels sentiments. « Il m'a vu pleurer, dit-elle, les joues tremblantes, le cœur gonflé. Il m'a vu pleurer, mais rien, rien !» Elle dit, et, étendant ses beaux bras sur la fenêtre, elle y cacha sa tête et se livra à tout son besoin de pleurer. Elle resta plongée dans sa rêverie, jusqu'à ce que le son de la voix de son père et de celle de Caspas dans la chambre voisine lui apprit que la compagnie s'était séparée. Les lumières qui brillaient de fenêtre en fenêtre montraient que l'on conduisait la princesse à ses appartements dans la partie opposée de l'auberge, et elle vit distinctement la figure du neveu qui passait à l'une des croisées. Elle poussa un profond soupir et allait fermer le volet quand son attention fut attirée par quelques paroles prononcées sous sa fenêtre par deux personnes qui venaient de tourner un angle du bâtiment. « Mais que faire de cette pauvre jeune dame ?» dit une voix qu'elle reconnut pour celle de la servante. « Eh, elle doit subir son sort !» fut la réponse du vieux Pietlo. « Mais ne peut-on l'épargner ?» demanda l'autre avec vivacité. « Elle a si bon cœur !»« Cospetto !»« Quel caprice !» répliqua l'autre brusquement. « Voudriez-vous gâter toute l'affaire pour l'amour d'une fille ?» Cependant, il s'était écarté de la fenêtre, et la polonaise ne put rien entendre de plus. Ce fragment de conversation renfermait quelque chose d'alarmant. Avait-il rapport à elle-même ? Et en ce cas, quel était ce danger auquel on voulait la soustraire ? Elle fut plusieurs fois tentée de frapper à la porte de son père pour lui dire ce qu'elle venait d'entendre, mais elle pouvait s'être trompée. Elle pouvait avoir mal entendu. La conversation avait peut-être rapport à quelqu'un d'autre. Enfin, elle était trop obscure pour mener à aucune conclusion. Dans cet état d'incertitude, elle tressaillit à un coup sourd donné contre la boiserie d'une partie éclairée de son obscur appartement. En approchant la lumière, elle aperçut une petite porte qu'elle n'avait pas remarquée. Elle était fermée en dedans. Elle s'approcha, demanda qui frappait, et reconnut la voix de la servante. En ouvrant la porte, elle vit cette femme pâle et agitée. Celle-ci entra doucement, mettant un doigt sur ses lèvres en signe de discrétion et de prudence. « Fuyez, dit-elle. Quittez cette maison à l'instant, ou vous êtes perdue. » La jeune fille, épouvantée, demanda une explication.
« Je n'ai pas le temps, répondit cette femme.
« Je n'ose pas. Je serai découverte si je reste ici. Mais fuyez, ou vous êtes perdue. Quittez mon père. Où est-il ? Dans la chambre voisine. Eh bien, appelez-le, mais ne perdez pas de temps. » La jeune fille frappa à la porte de son père. Il n'était pas encore couché. Elle s'élança dans sa chambre et lui fit part de cet avis terrible. Le comte rentra avec elle, suivi de Caspas. Ces questions tirèrent bientôt la vérité des réponses embarrassées de la femme. Les brigands entouraient l'auberge. On devait les introduire après minuit, quand les serviteurs de la princesse et le reste des voyageurs, profondément endormis, offriraient une proie facile. « Nous pouvons barrer l'auberge et nous défendre, » dit le comte. « Mais les gens de l'auberge sont d'intelligence avec les bandits. » Comment donc nous échapper ? Ne pouvons-nous demander la voiture et partir ? San Francesco, et pourquoi ? Pour donner l'alarme et faire voir que le complot est découvert ? C'est réduire les brigands au désespoir et les attirer tous contre vous. Ils savent qu'il y a un riche butin dans l'auberge et ne laisseront pas facilement échapper. Mais comment partir ? Vous trouverez derrière l'auberge un cheval que vient de quitter l'homme qui était allé avertir une partie éloignée de la bande. Un cheval et nous sommes trois ! Et la princesse espagnole ? S'écria la jeune fille avec vivacité. « Comment la tirer de danger ?»« Diavolo, que n'importe !» dit la femme avec colère. « C'est vous que je veux sauver. Vous me trahirez et nous serons tous perdus. Écoutez, continua-t-elle, on m'appelle. Je vais être découverte. Encore un mot. » Cette porte conduit par un escalier à la cour. Sous le hangar, au fond de cette cour, est une petite porte qui donne sur les champs. Vous y trouverez un cheval, montez-le. Faites un circuit autour d'une chaîne de rochers que vous découvrirez. Avancez lentement et avec précaution jusqu'à un ruisseau. Alors, vous vous trouverez sur la route où sont trois croix blanches clouées à un arbre. Là, mettez votre cheval au galop et courez au village. Mais souvenez-vous que ma vie est dans vos mains. Ne dites rien de ce que vous avez vu ou entendu, quoi qu'il arrive à l'auberge. La femme sortit. Une délibération courte et agitée s'éleva entre le comte, sa fille et le vétéran Caspas. Celle-ci semblait presque avoir perdu toute appréhension pour elle-même dans son inquiétude pour le salut de la princesse. Fuir dans un lâche silence et la laisser massacrer ? Cette seule pensée la faisait frissonner. La galanterie du comte se révoltait aussi à cette idée. Il ne pouvait consentir à abandonner une troupe de voyageurs sans défense et à les laisser dans l'ignorance du péril qui les menaçait. « Mais que deviendra ma jeune maîtresse ?» dit Caspas, « si l'alarme est donnée et l'auberge en tumulte. Que faire d'elle dans le trouble d'une mêlée ?» Les sentiments paternels se réveillèrent. Le comte jeta un regard sur sa chérie, sa malheureuse fille, et frémit à l'idée de la voir tomber aux mains des bandits. Cependant, celle-ci ne songeait pas à elle-même. « La princesse ! La princesse ! Faites seulement connaître à la princesse le danger qu'elle court !» Elle eût voulu le partager. Enfin, Caspas montra le dévouement d'un fidèle et vieux serviteur. Il n'y avait pas de temps à perdre. La première chose était de mettre sa jeune maîtresse hors de danger. « Montez à cheval, dit-il au comte. Prenez-la en croupe et fuyez. Allez au village. Éveillez les habitants. Envoyez du secours. Laissez-moi ici pour donner l'alarme à la princesse et à ses gens. Je suis un vieux soldat et nous pourrons, j'espère, soutenir le siège jusqu'à ce que nous soyons secourus. » La jeune fille demanda encore à rester auprès de la princesse. « Pourquoi ? Dit brusquement le vieux Caspas. Vous ne pourriez lui être utile. Vous devriez déjà être en route. Songez à vous et non à nous. » Il n'y avait rien à répondre. Le comte saisit ses pistolets et, prenant le bras de sa fille, s'avança vers l'escalier. La jeune polonaise s'arrêta, recula d'un pas et dit « Il y a avec la princesse un jeune cavalier. Son neveu, peut-être. Je vous comprends, mademoiselle, répliqua le vieux Caspas d'un air d'intelligence. Pas un cheveu de sa tête ne tombera si je puis l'empêcher. » La jeune fille rougit plus que jamais. Elle n'avait pas cru que le vieux domestique la comprendrait aussi bien. « Ce n'est pas ce que je veux dire, » reprit-elle en hésitant. Elle voulait ajouter quelques mots ou quelques éclaircissements, mais les instants étaient précieux et son père l'entraîna. Ils traversèrent la cour, arrivèrent à la petite porte où était le cheval attaché au mur. Le comte y monta, prit sa fille en croupe, et ils avancèrent le plus tranquillement possible dans la direction que la femme leur avait indiquée. La Vierge jeta sur l'édifice ténébreux plus d'un regard d'inquiétude. Les lumières qui avaient jeté une faible lueur à travers les fenêtres obscures, disparaissant tour à tour, montraient que la maison tombait progressivement dans le repos, et elle tremblait d'impatience dans la crainte que le secours n'arrivât pas avant que ce repos ne fût si tristement interrompu. Ils passèrent en silence et en sûreté au pied des rochers dont l'ombre les dérobait au regard. Ils traversèrent le ruisseau et atteignirent la place où, trois croix blanches clouées à un arbre annonçaient que ce lieu avait été le théâtre d'un assassinat. Au moment où ils atteignaient cet endroit de mauvais augure, ils distinguèrent dans l'obscurité quelques hommes qui sortaient d'un défilé entouré de rochers. « Qui va là ? » cria une voix. Le comte frappa son cheval de l'éperon, mais un de ses hommes s'élança vers lui et saisit la bride. Le cheval de Varétif recula, s'agita. Si la jeune fille n'eût serré son père, elle eût été renversée. Le comte se pencha, appuya un pistolet sur la tête du bandit et fit feu. Le brigand tomba mort. Le cheval s'élança en avant. Deux ou trois balles sifflèrent aux oreilles des fugitifs, mais elles ne servirent qu'à hâter leur course. Ils arrivèrent au village en sûreté. Tout le monde fut bientôt sur pied. Mais telle était la terreur qu'inspiraient les brigands que les habitants frémissaient à l'idée de marcher contre eux. Une bande redoutable avait quelque temps infesté cette partie des montagnes et l'auberge avait été longtemps soupçonnée d'être un de ces lieux horribles où le voyageur sans méfiance est saisi et secrètement mis à mort. Les riches ornements de l'hôtesse avaient excité de violents soupçons. Plusieurs troupes de voyageurs avaient mystérieusement disparu sur cette route. On avait cru d'abord que les brigands les avaient enlevés pour en tirer une rançon, mais on n'avait jamais entendu reparler d'eux. Tels étaient les récits que les villageois faisaient retentir aux oreilles du comte quand il s'efforçait de les exciter à tirer la princesse et sa suite de leur dangereuse situation. La jeune fille secondait les exhortations de son père avec toute l'éloquence de ses prières, de ses larmes, de sa beauté. Chaque instant redoublait son anxiété jusqu'à ce qu'elle devint un supplice. Heureusement, un corps de gendarmes se trouvait dans le village. Plusieurs jeunes villageois les accompagnèrent volontairement et la petite troupe se mit en marche. Le comte, ayant déposé sa fille en lieu de sûreté, voulut, avec le courage d'un vieux soldat, marcher à cette scène de danger. Il serait difficile de dépeindre l'agitation de la jeune fille dans l'attente du résultat. La troupe arriva à temps à l'auberge. Les brigands, trouvant leur plan découvert et les voyageurs disposés à les recevoir, avaient entrepris avec fureur une attaque de vive force. La suite de la princesse, barricadée dans les appartements, repoussait les voleurs des portes et des fenêtres. Caspas avait montré les talents militaires d'un vétéran et le neveu de la princesse, la valeur bouillante d'un jeune soldat. Cependant, leurs munitions étaient presque épuisées et il leur eût été difficile de tenir plus longtemps quand une décharge de la mousqueterie gendarme les ranima par la nouvelle d'un secours. Un combat acharné commença, car une partie des brigands, surpris dans l'auberge, eurent à leur tour un siège à soutenir, tandis que leurs compagnons, cachés sur les rocs et dans les buissons voisins, faisaient des efforts désespérés pour les dégager. Je n'entrerai pas dans les détails de l'affaire que j'ai entendu conter différemment. Il suffira de dire que les bandits furent défaits, plusieurs d'entre eux massacrés, d'autres faits prisonniers. Ceux-ci, ainsi que les gens de l'auberge, furent exécutés ou envoyés aux galères. Je recueillis ces détails dans un voyage que je fis quelque temps après cet événement. Je passai même à l'auberge. Elle était alors démantelée, à l'exception d'une aile où était stationné un corps de gendarmes. Ils me montrèrent les trous de balles dans les fenêtres, dans les murs et les panneaux des portes. On voyait aussi des membres desséchés se balancer aux branches d'un arbre voisin. C'était, me dit-on, les restes des brigands tués dans le combat ou exécutés après la défaite. Ce lieu avait un air triste, sauvage, abandonné. « Y eut-il quelqu'un de tué parmi les gens de la princesse ?» demanda l'anglais. « Autant que je puisse m'en souvenir, deux ou trois y périrent. »«
Pas le neveu, j'espère ?» dit la belle vénitienne.
« Oh non !» Il courut avec le comte calmer les alarmes de sa fille par la nouvelle de leur victoire. La jeune polonaise avait été soutenue dans cet intervalle par la force même de ses sentiments. À l'instant où elle vit son père revenir en sûreté accompagné du neveu de la princesse, elle poussa un cri de joie et s'évanouit. Mais, heureusement, elle revint bientôt à elle. Et, qui plus est, fut mariée au jeune cavalier. Et tous accompagnèrent la vieille princesse dans son pèlerinage à Lorette, où on peut voir encore ses riches offrandes dans le trésor de la Santa Casa. Il serait fastidieux de suivre le cours de la conversation qui roula dans un cercle d'histoire du même genre, jusqu'à ce qu'elle fût occupée par deux autres voyageurs venus sous l'escorte du Procaccio, M. Hobbs et M. Dobbs, l'un marchand linger, l'autre épicier de son état, qui revenait d'un voyage rapide en Grèce et en Terre Sainte. Ils étaient pleins de l'histoire de l'alderman Popkins. Ils s'étonnaient que les voleurs eussent osé attaquer un homme d'une telle importance à la bourse. Un gros marchand de sel de Slomorkton Street et de plus un magistrat. En effet, l'histoire de la famille Popkins n'était que trop vraie. Elle était attestée par trop de voix pour laisser des doutes. Sur les témoignages conformes et contradictoires d'une demi-douzaine de narrateurs empressés à la rapporter, et parlant tous à la fois, l'anglais recueillit les détails suivants.